Interview.
2 jours. Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Philippe Lémonier. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Lémonier, vous êtes ici pour nous faire part d'une création que vous proposez depuis quelques mois, peut-être même 2 ans, je crois.
Alors, ça fait presque 3 ans en réalité, mais le Covid a un petit peu amputé le temps.
Voilà, ça a ralenti et donc ça s'appelle les éditions Le Pas de l'Homme, une maison d'édition donc qui est opérée comment à compte d'auteur comment se
non,
passe
pas, Non, vraiment une véritable société d'édition. Alors peut-être juste une petite jeunesse, certains me connaissent depuis 25 ans, je consacre mon travail à l'écriture, notamment en tant qu'écrivain voyageur. J'ai publié pas mal d'ouvrages sur l'histoire des chemins, des voyageurs, l'histoire de la marche depuis que l'homme marche, et puis le travail d'ethnographie, notamment les derniers travaux dont on avait parlé, qui étaient ou sur les lavandiculteurs, ou, ce qui m'a amené dans le Diwa d'ailleurs, travailler sur l'identité cuir et chaussures de la ville de Romans. Mais préalablement à ces 25 ans, j'avais un parcours d'entreprise, notamment de dirigeant d'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a trois ans, alors que je publiais mon 17e livre, j'ai ressenti le besoin de faire une pause dans l'écriture de 2-3 ans. Et cette idée, comme ayant redressé, connaissant assez bien le livre depuis 40-50 ans, passionné d'ouvrages, ayant redressé des éditeurs, je me suis dit, je vais créer une petite société d'édition et je suis parti sur le principe de ce qu'on appelle les ficelles, qui sont des petits livres de colporteurs, des petits livres que les colporteurs diffusaient au 18e et 19e siècle, des petits livres de 2 pages, de 4 pages, de 8, 16 pages, souvent sur du mauvais papier, qui racontaient soit des recettes de cuisine, soit des contes, soit des prières, quelques livres un peu interdits, politiques ou religieux. Mais bon, voilà, c'est ça. Et bien sûr, l'idée, c'était le format, puisque j'édite essentiellement au format A6. Et l'idée était aussi de trouver le modèle économique qui me permette de produire tout de A jusqu'à Z à la maison.
Et donc, ça se présente en petit cahier A6, comme vous le dites, avec...
28 pages, entre 28 et 32 pages selon les oui.
Et donc relié avec une ficelle, d'où le nom, et quelques boucles à l'extrémité, certainement pour accrocher.
Alors, c'était ça, le colporteur. Alors, lui, à l'époque, les ficelles, c'était essentiellement parce qu'on avait une couture rapide pour tenir quand il y avait plusieurs pages, et surtout parce que ça permettait effectivement au colporteur de l'accrocher sur sa balle. Voilà, et c'est un format qui me plaît. Moi, j'ai toujours aimé les petits livres, les petits ouvrages. J'ai eu jadis une collection que j'ai revendue de petits livres reliés, de petits livres en cuir. Je trouve que jusqu'au format de poche, les livres me plaisent comme ça. Quand ils sont un peu gros, ou alors à moins que ça soit ce qu'on appelle de la bibliophilie, mais j'ai toujours aimé les petits livres. Et donc là, n'ayant pas la prétention d'être un grand éditeur, et puis j'aime la nouvelle, j'aime le texte court. Et voilà, donc à partir de là, sur 28 à 32 pages, on met entre, selon bien sûr la maquette, mais entre 10, 15, 20, 25 000 signes. Qui permet avoir pour le lecteur d'avoir une certaine consistance sans avoir un roman de 300 pages.
Des tailles de ces ficelles sont consécutives aussi à cette arrivée du transport ferroviaire ou du transport en commun et qui permettent justement d'opérer quelques lectures lors du trajet.
Alors, il y a ça. Il y a effectivement le fait que c'est... On le met dans la poche, déjà, pour commencer. Deuxièmement, effectivement, on peut lire un peu partout ces petits livres qui sont assez précieux, qui ne sont pas faits, comme je dirais, dans les siècles passés, sur du papier. Au contraire, je choisis des papiers intérieurs, de très beaux papiers, des papiers de couverture. Mais bon, qui restent quand même des objets que l'on peut emporter avec soi. Et surtout, des objets que l'on peut offrir. Dire qu'une simple enveloppe au format français, c'est-à-dire l'enveloppe presque carrée, on met le livre dedans, ça coûte entre 5 et 10 euros selon l'édition, et au-delà du prix, ça fait un beau cadeau. Sachant qu'il n'y a pas de thème principal ou de thème déclaré aux éditions, que la ligne de conduite que je me suis donnée, c'est que ça ait du sens, que ça soit bien écrit et que ça me plaise. Voilà, d'accord. Et là, à partir de là, on peut aborder des tas de thèmes. Il y a de la poésie, il y a des nouvelles, il y a de l'anthropologie. Par exemple, Martin de la Soudière, qu'un certain nombre de personnes connaissent, qui est un ethnologue enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales et qui est au CRNS, m'a fait un ouvrage sur la neige. Comment on l'appelle, comment elle est considérée dans le Massif central. Et il m'y a joint un dictionnaire inuit, puisque le mot neige n'existe pas en inuit. Par contre, ils ont 93 mots pour parler de la neige, qu'elle est molle, qu'elle est douce, qu'elle vient de tomber, qu'elle tombera demain, etc. Et donc, j'ai édité 38 de ces mots. Voilà, c'est un exemple. D'autres projets qui sont en cours, il va y avoir « Lettre à mon chat », de l'auteur du livre de thé qui se paraîtra au printemps. Après, il y a eu un livre sur une petite ficelle sur la lavande, sur l'histoire de la lavande, là, qui a bénéficié d'une diffusion un peu plus grande parce qu'en fait, beaucoup de lavandiculteurs ont acheté cette ficelle pour l'offrir ou pour la vendre à leurs clients. Donc voilà, il n'y a pas de terme fermé, tout est bienvenu, y compris des poèmes avec illustration, y compris des collages, y compris bien sûr des nouvelles ou des textes d'humeur. J'ai 2-3 textes d'humeur qui m'ont bien plu et que j'ai eu envie de publier. Aujourd'hui, on est sur une quinzaine de ficelles et il y a un programme 2023. Si je réussis, parce que je suis quand même tout seul là pour l'ensemble des fonctions qu'il y a dans une petite boîte, il y en aura 10 à 12 ficelles qui paraîtront en 2023.
Alors, ces formats imposent aussi un texte qui puisse correspondre.
Oui.
Et donc, est-ce qu'il y a une adaptation possible de ce qui existe déjà ou alors il y a une écriture particulière en fonction de, justement, à destination de cette ficelle ?
Non, il n'y a pas. D'abord, il n'y a pas d'écriture particulière. N'importe quelle écriture est intéressante. D'ailleurs, l'un des tout premiers ouvrages que j'ai publié, enfin, c'était d'ailleurs le numéro 2, ce sont les poèmes de la comtesse de Die. Avec le regretté Bernard de Mosaïque, depuis des années, il me disait « Ah, mais l'éditeur ne l'a pas fait, il faudrait que tu le fasses, il faudrait un jour que tu fasses. » Puis un jour, donc, je me suis décidé et j'ai édité. Donc, on est dans un Occitan de Provence, pas dauphinois parce que ça n'existait pas, mais de Provence, un Occitan de Provence. On peut se poser la question « Pourquoi jusqu'à dit ?» Mais il y a plein de mystères autour de ce personnage. Mais bon, voilà, ça a été publié. Ça a été d'abord remis en France, en Occitan de l'époque, par un ami qui est médiéviste, historien de l'art, qui vit aussi dans un château de la même époque, ça aide. Et puis ensuite, il l'a traduit très, à la fois très poétiquement, mais à la fois dans le respect, puisqu'il a beaucoup travaillé sur le Moyen-Âge, dans le respect des termes de cette époque, corrigeant certains mots où, par exemple, une des traductions, pour donner quand même la qualité du travail qui était fait, disait que la comtesse s'en référait à ses coussins. Ses coussins. En réalité, le mot, c'était à ses conseillers. Mais il avait été mal traduit, voilà. Donc il y a eu quand même un travail, et c'est une forme d'écriture, évidemment, qu'on ne retrouve plus, c'est le français du Moyen-Âge. Après, c'est la qualité, c'est ce que j'ai dit, il faut que ça ait du sens. Et puis, on peut soit reprendre des textes qui existent déjà, parce que je vais notamment éditer cette lettre à mon chat, mais également de Maupassant, la ficelle de Maupassant, ce texte de Maupassant, ou des textes complètement inédits, comme ce qui s'appellera un livre, enfin une ficelle qui s'appellera Iliès, qui est une histoire que j'ai découverte, qui est découverte récemment, écrite par un jeune auteur de 18 ans, qui a beaucoup écrit, qui m'avait envoyé plusieurs choses. Et là, il me parle d'un personnage en Afrique du Sud qui, au tout début du 20e siècle, un noir, se penche sur un homme blessé, un Anglais blessé, essaye de le sauver, et les Anglais, pensant qu'il est en train de le tuer, le tue. Voilà, donc... c'est l'écriture qui guide, il faut que ça soit bien écrit et puis qu'on ait envie de le lire. Si j'ai envie de le lire, je me dis que peut-être d'autres auront envie de lire la ficelle.
Sous les yeux, tu as amené plusieurs ficelles, tu as parlé de la lavande. Il y a aussi un ouvrage de Saïd Mohamed, « La nuit m'a dit, le jour m'a dit ».
Pareil, alors ça, c'est de l'introspection, c'est une réflexion d'un homme. Saïd est un auteur connu, il a publié plus d'une vingtaine de livres, il a eu des prix nationaux pour son écriture. C'est un personnage d'une grande sensibilité, c'est un petit peu son testament. La nuit m'a dit, le jour m'a dit, et après l'écriture de poèmes ou d'histoires, il a eu envie besoin de dire un peu comment il voyait le monde, arrivé à 60 et qu'il vient de prendre sa retraite. Saïd Mohamed est un personnage important pour les éditions parce qu'en fait, c'est lui qui a quasiment formé en matière de papier, de fabrication à l'école Estienne, la plupart des directeurs de fabrication de toute l'édition en France. Voilà. Et donc, quand c'était un ami, on se connaissait, on s'est rencontrés dans les salons. Et quand j'ai démarré la boîte, tout naturellement, je l'ai appelé, j'ai discuté avec lui. Donc, c'est un personnage qui était assez proche. Et puis, à un moment, je lui dis, tu sais, Saïd, j'aimerais bien publier un de tes textes parce que je trouve qu'il écrit bien. Puis voilà, il m'a dit, écoute, j'ai un texte là, tu vois. Et j'ai vu que ce texte me plaisait beaucoup.
Il y a aussi le troisième, Benoît Janté, choisir un train, épouser un bus.
Oui, alors Benoît, enfin, c'est pareil. Bon, ma qualité ou ma qualité, oui, enfin ma qualité d'écrivain fait que j'ai parcouru avant le Covid beaucoup de salons de livres. Donc, ce qui, en fait, salons de livres, on a la chance de croiser des auteurs anonymes ou des auteurs connus. On mange ensemble, on dîne ensemble, on discute, on sympathise. Il n'y a pas de hiérarchie vraiment. Heureusement, d'ailleurs, c'est ça qui est sympathique. Et Benoît, je l'ai rencontré à un salon. Et il a écrit 2-3 livres, plutôt vers le sport. Mais son écriture me plaisait. Son écriture assez dynamique, beaucoup d'humour, beaucoup de comment on va dire ça de retour sur lui-même. Et cette nouvelle où il raconte son voyage entre Paris et Angoulême dans l'ex-capitale, parce que le capitole, malheureusement, n'existe pas. Et au fur et à mesure des étapes, il se remémore quelques moments de sa vie, notamment quelques moments de rencontres féminines, pas nécessairement amoureuses, mais de rencontres féminines. Et il raconte ça. Et on prend le train, on prend le livre de Benoît, donc choisir un train, épouser un bus, et on arrive à la gare.
Et puis, est-ce qu'il y a des auteurs dont tu connais des textes et que tu souhaiterais éditer aussi dans ces ficelles?
Tu veux dire ici dans le Diwa?
Ou ailleurs, oui. Je veux dire, on peut penser à des écrivains connus, même
oui, alors,
anciens.
Alors, c'est ce que je te dis. Si tu veux, une des idées, mais là, on va dire que je suis toujours utopique. Mais si on a sans utopie, sans idée, déjà avec 1000 idées utopiques, on arrive à en faire une. Pour moi, ça serait au-delà, ça serait de pouvoir éditer dans la collection des ficelles un auteur aujourd'hui vivant, et si possible, bien sûr d'un bon texte, mais plus ou moins connu, parce que c'est quand même la diffusion, le développement de la boîte, et un auteur ancien, comme Maupassant, que la ficelle, je ne sais pas si tout le monde connaît, enfin Maupassant, bien sûr, mais La ficelle de Maupassant est un texte passionnant, c'est un paysan, enfin on est sur un marché de Maquignon, et il y a un vieux paysan qui est là, qui regarde les vaches, qui passe, comme on voit en Auvergne, puis qui ramasse un petit bout de ficelle. Et puis, il s'avère qu'un grand maquignon avec un portefeuille énorme a perdu son portefeuille. Et on l'a vu se baisser. C'est lui le voleur, etc. Et ce texte est poignant parce que, bon, je vais en parler parce que beaucoup de gens connaissent ce texte. Ce texte est poignant parce qu'en réalité, cet homme va tomber malade et il va mourir. Et son dernier mot, juste avant de mourir, c'est de dire « pour un petit bout de ficelle ». Voilà. Donc voilà, c'est le genre de texte qui me remue un petit peu et que j'aime bien. Et donc, oui, bien sûr, pour un éditeur, c'est toujours intéressant et flatteur d'avoir des auteurs qui sont connus. Même si, moi, ça, je viens de publier dans une autre collection un livre d'Anne-Charlotte Polisevitch, qui n'est pas une ficelle, qui est un texte qui m'a beaucoup ému. C'est une femme qui a une cinquantaine d'années, que je connais depuis une dizaine d'années, et qui a aidé, enfin plus qu'aidé, qui a porté tout son amour, malgré qu'elle a été mariée et des enfants, tout son amour à sa sœur qui est polyhandicapée pendant 36 années. Elle l'a aidée, elle l'a soutenue dans les eaux de mer, elle a vraiment fait en sorte d'apporter le maximum de bonheur à cette sœur. On parle d'écouter les Beatles, on parle d'écouter Pink Floyd, elle parle d'un certain nombre de choses. Et donc, elle n'est pas du tout connue, c'est son premier ouvrage. Et n'empêche que j'ai pris un grand plaisir à éditer cette nouvelle, qui est un vrai témoignage, d'autant plus que il y a des combats qui méritent d'être menés, notamment celui des invisibles, notamment je pense aux handicapés, pour lesquels il y a peu de choses qui est fait pour eux. Et cette femme a s'est consacrée quelque part, peut-être presque au détriment de sa famille, peut-être, s'est consacrée vraiment à sa sœur. Et c'est à la fois une ode à l'amour de sa sœur, mais c'est aussi une ode à la différence.
À un texte d'Henri Miller, Jour tranquille a dit, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est épuisé. Donc, pour le moment, il n'y a plus d'accès à ce texte. Et est-ce que justement, comment s'opèrent ces droits d'auteur? Parce qu'il y a aussi des contrats d'exclusivité pour les éditions. Comment ça s'opère?
Alors, c'est assez compliqué en réalité, les droits d'auteur. La théorie, c'est que les droits, au bout de 70 ans, tombent dans le domaine public. Donc, a priori, tout le monde peut le rééditer. Après, il y a un certain nombre de pièges qui arrivent. C'est que tu prends un texte et l'éditeur qui l'a édité, il ne peut pas t'empêcher de prendre le texte, sauf que toi, tu as repris les mêmes tournures ou les mêmes présentations. Et ça, ça n'appartient pas à l'auteur, ça appartient à l'éditeur. Bon. Ensuite, il y a des exceptions. Par exemple, le journal d'Anne Frank, pour des raisons, je ne sais pas lequel, mais est reporté au lieu d'être tombé, je crois que c'était en 21, bah oui, 40, en 2011, va être reporté en 2031. On n'a pas le droit d'y toucher. Un autre exemple qui est plus frappant, qui m'a choqué, non pas en termes d'idées, mais en termes de réaction, c'est le Mein Kampf d'Hitler, pour lequel ça a été interdit de publier jusqu'à ce que les 70 ans soient tombés. Et à ce moment-là, la ville de Munich s'est dit propriétaire des droits et a décidé de toucher l'argent là-dessus en empêchant qui que ce soit de travailler sur ce texte. Alors, ce n'est pas très grave pour Hitler, mais pour le principe de l'édition, c'est un peu grave. Alors après, Henry Miller, effectivement, est venu dans les années 60, je crois quelque chose comme ça, à la fin des années 50, des années 60, et a fait un très beau texte sur dit que j'ai. Je l'ai acheté à Mosaïque il y a une dizaine d'années, alors qu'ils avaient déjà ça depuis 20 ans dans les rayons. Bon, je ne sais pas, il faut que je regarde comment c'est possible. Après, sur un tout petit texte comme ça, il est possible de faire ce que je n'aime pas beaucoup, mais il y a une expression de droit réservé, au cas où on trouve la personne. Mais c'est une bonne idée, ça faisait partie de mes idées. J'ai ce texte-là, lorsque notamment Henry Miller compare dit ces montagnes à Big Sur. Voilà, donc c'est assez sympa. C'est toujours un problème, les droits d'auteur, avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas en face de soi. Il y a peut-être toujours des pièges. Là, pour Lettre à mon chat de l'auteur, je n'ose pas prononcer son nom, parce que comme je fais du dyslexisme, le nom japonais, je vais dire une bêtise, je ne l'ai pas sous les yeux, de l'auteur du livre de thé, donc, qui a été traduit en 30 et quelques langues depuis plus d'un siècle. La lettre appartient, a été écrite en anglais. En fait, l'auteur rentre au Japon après avoir séjourné aux États-Unis, avoir été un des responsables au musée de Boston du secteur asiatique, et il laisse son chat. Et il lui écrit, mais il lui écrit en anglais. Et c'est donc resté à Boston, cette lettre, et ça a été récupéré récemment par M. Naito, qui est un monsieur japonais qui a une librairie française qui s'appelle Le Petit Prince, on ne peut pas mieux que ça, à Morges en Suisse, et que j'ai rencontré, que je connais depuis plusieurs années. Puis on a décidé d'éditer ce texte. Donc voilà, c'est toujours un tout petit peu, chaque fois qu'on n'a pas l'auteur en direct, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est intouchable, ça devient plus délicat.
Ça vous pousse aussi parfois à aller dans des archives de bibliothèques et de découvrir des textes qui sont endormis.
Alors là, tu évoques plutôt, enfin, tu touches à un deuxième métier qui est mon métier d'écrivain, pour lequel effectivement j'enquête beaucoup. Même si moi, je parle des chemins, je parle de la lavande, je parle de ça, j'enquête beaucoup. Et notamment pour le livre de la lavande, j'ai passé plusieurs jours aux archives départementales pour aller chercher les décrets qui étaient au 19e siècle, 20e siècle. Et puis, après, il y a le hasard. On entend parler de quelque chose et ça souvent. Et puis, on tire un fil et puis on a envie d'aller plus loin, effectivement. Et puis, on tombe sur des textes, que je n'ai pas édité pour l'instant parce que d'abord, il faut, je ne peux pas tout éditer du jour au lendemain, mais que j'ai évoqué dans les ouvrages ou sur lesquels je me suis appuyé pour parler de droit. Oui, ça c'est passionnant. Et puis des fois, c'est même qu'une simple rencontre, comme Mosaïque qui m'a dit, mais vous connaissez pas la comtesse, tu connais pas la comtesse de Die, vos livres étaient épuisés, etc. Et moi, je venais arriver dans le Diwa. Non, je connaissais pas la comtesse de Die. Par contre, je me suis passionné pour le personnage et j'ai travaillé un certain nombre de mois avant de publier l'ouvrage.
Une fois le texte entre les mains, il faut l'éditer. Donc, il y a cette mise en page à opérer, le choix d'une police aussi pour l'imprimer.
Alors,
et, euh,
pardon.
Et puis, il y a aussi l'aspect graphique, esthétique.
Alors, il y a un lourd travail. Alors, bon, quand le texte m'arrive, la première chose que je fais, je lis ce texte et je donne un premier avis à l'auteur. Ça me plaît, je vais le relire. Ou ça me plaît pas trop parce que c'est pas trop dans... Alors j'essaye de pas froisser trop les auteurs quand même. Ça me plaît pas trop parce que c'est pas trop dans l'esprit de ce que je fais, ou il y a trop de caractère. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses. Il y a donc une réaction au texte, et puis après je le laisse un petit peu mûrir. Et puis ça me revient, je me prends ce texte et dis non, c'est bon, je vais proposer à l'éditer. À partir de là, je reçois souvent un document Word. La première chose que je fais sur ce document, c'est de le corriger. Il y a deux types de corrections à faire. Il y a la correction qui concerne tout ce qui est français, orthographe, temps, etc. Mais il y a aussi, j'ai un programme qui permet de mettre en page comme un imprimeur. C'est-à-dire, par exemple, un exemple qui est bête, mais ça, lorsque on tape avec Word, on met ou on ne met pas un espace après, devant le point d'interrogation. Normalement, il y a un espace devant, point d'exclamation, point virgule. En réalité, c'est pas une... D'ailleurs, on dit une espace en matière d'imprimé. C'est pas une espace, c'est trois quarts d'espace. Word ne le fait pas. Par contre, le correcteur professionnel du livre le fait. Et voilà. Donc, sa première étape, je corrige. Deuxièmement, je passe le correcteur, je relis. Et là, à partir de là, j'annote les choses qui me semblent... Alors, s'il manque un S, je mets le S. Mais pour le reste, je rencontre à l'auteur de toute ma lecture. Et à partir de là, on en discute. Est-ce que tu veux le laisser parce que tu t'estimes que c'est ton style, ou que tu veux faire quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on corrige, etc. Et là, ça peut prendre des fois plusieurs jours, selon le texte, l'auteur, le temps. Bah d'abord, parce que lui, comme moi, ou elle, comme moi, parce que j'ai édité quand même des femmes, pas mal d'ailleurs autant, n'ont pas toujours la disponibilité tout le temps. Donc, on a ça. Quand on est d'accord sur le texte, effectivement, il y a la mise en page réellement qui se fait. Et là, je fais un choix de caractère, même si à l'origine des éditions, j'avais fait un choix pour les Bodoni, MT, pour une certaine couleur, etc. Mais moi, autant j'ai plaisir à travailler chaque fois que je peux la rémunérer avec Alice Chéreux, que c'est des gens communs, autant je ne peux pas toujours la rémunérer, elle le sait. Et dans ces cas-là, je travaille à la maison, je le fais moi-même et je n'ai pas les deux couleurs qu'on a inventées pour ça. Bon. Mais je fais ma mise en page, je fais mon choix de police, et puis après, va arriver la couverture. Et là, pour la couverture, j'essaie autant que possible toujours de prendre une jeune artiste vivante. Par exemple, ce que je ne t'ai pas amené là, c'est Ozzy. Ozzy, c'est Guillaume le tatoueur qui m'a fait le dessin. Voilà. Pour une autre, c'est Laurie, que certaines personnes connaissent ici, qui m'a fait le dessin. Voilà. Donc, j'essaie de trouver toujours un illustrateur qui... Alors, pour la lavande, l'exemple est différent parce que là, j'ai été séduit par ce dessin. Et c'est en fait le directeur du jardin botanique de Neuchâtel qui m'a autorisé à le reproduire. Bon, donc, il y a toujours une quête. Et ensuite, puisque... sauf exception de gros tirage. Ensuite, je fabrique. Donc, je cherche du papier qui est complètement différent pour chaque ficelle. Je vais le faire couper au format A5 et je tire. Ensuite, j'agrafe, je plie, je monte les ficelles, je fais les nœuds de ficelle avec un gabarit et je monte les ficelles sur le top. Bon, voilà. Il y a tout un travail intellectuel, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail manuel dans l'édition.
Ces ouvrages sont disponibles par le site de l'édition Le Pas de l'Homme.
Alors, les ouvrages, je ne peux pas créer un réseau de libraires. dans la mesure où je suis tout seul à faire la création, l'écriture, les corrections, l'impression, la comptabilité, donc 8 heures tous les jours de ça. Donc je ne peux pas être en plus sur le terrain. Et si je suis sur le terrain, mes ficelles ne valent qu'entre 5 et 8 euros. De toute façon, mes frais sur le terrain pour créer un réseau élargi seraient plus importants. Donc là, il y a quelques librairies qui les vendent. En fait, il y en a 3 réellement en librairie. C'est Mosaïque, c'est La Balançoire et c'est l'Alimentation Générale à Saillant, que tout le monde connaît dans la région. C'est mon laboratoire. Alors, il y a 2-3 autres points où je le mets qui ne sont pas des librairies. Mais de toute façon, dès le départ, sachant que je ne pourrais pas créer un réseau suffisant, c'était vraiment la construction du site qui a d'abord été un site vitrine et qui maintenant, depuis 15 jours, est réellement un site marchand. Et donc, c'est à partir du mois de janvier où je vais commencer à utiliser des fichiers pour contacter des gens en leur disant les éditions existent, vous pouvez aller sur le site, je vous propose tel livre, voilà. C'est comme ça que j'envisage la commercialisation.
Le site internet, c'est lepasdelhommetoutattaché.com. Et il y a aussi une édition hors commerce. Alors, en quoi se différencie-t-elle ?
Alors, non, là, l'édition commerciale hors commerce, elle se différencie parce que c'était exceptionnellement une commande. Donc, la personne voulait une ficelle. Elle a été éditée, elle a été à son numéro ISBN. Mais, disons, on va dire que ça reste un document... c'est pas un document intime, on pourrait la publier si vous voulez.
Une édition zéro.
Mais ça reste une édition donc hors commerce où en fait l'intérêt était celui de l'auteur et on a tiré 150 ou 200 exemplaires. Mais c'était l'intérêt qui pouvait être fait à la fois à l'auteur et aux amis à qui elle les a offerts. Mais ça n'a pas un intérêt général. C'est pour ça qu'elle est hors commerce. Sinon, elle n'aurait pas été hors commerce. Elle aurait été également vendue.
Il y a aussi l'ouvrage, le livre d'artiste, hein, aussi, qui amène son esthétique, son savoir-faire. Et ça, c'est déjà compliqué avec un texte classique, mais avec un poète expérimental qui peut peut-être marquer un seul mot sur une page.
Oui, oui, oui.
Des choses qui vous intéresseraient, justement, développer.
Oui, oui. La mise en page est quand même faite en fonction du texte. Autant on a un texte au long cours, au là, bon, on choisit. On choisit les marges, on choisit l'empagement qui est plus ou moins large en fonction du rendu, du nombre de pages que l'on veut obtenir. Après, on a effectivement je ne l'ai pas amené, mais Aïkus, une jeune fille qui s'appelle Edma Merabet qui a fait des Aïkus, c'est 3 lignes. L'Aïkus, c'est 3 lignes. Donc, 3 lignes et puis une photo en face, noir et blanc, c'est tout. Voilà. Là, j'ai un livre, je ne veux pas citer l'auteur pour l'instant, mais il est connu ici, de poèmes et de dessins que je vais publier. Là aussi, je suis en train de travailler sur une mise en page un petit peu originale qui mette... disons que ma problématique sur cet ouvrage, c'est que, et je lui ai dit, donc je peux, c'est que ce qui m'entraîne à publier les poèmes, c'est les dessins. Bien souvent, c'est le contraire. On a le poème et puis on a l'illustration. Non, les dessins ont une force. Et du coup, c'est le dessin, c'est le poème qui va accompagner le dessin et non pas le contraire. Bon, et là aussi, je cherche une mise en page. Du jour où hormis les 2 livres que j'ai édités hors collection, il y en a un autre dont on pourra parler après, c'est la ficelle. C'est le format A6. Je tire en A5. Je peux aller jusqu'à 32 pages. Ou alors, je baisse le grammage du papier, mais... Si je baisse le grammage du papier, j'ai un problème dans l'imprimante. Bon, donc globalement, il faut que je tire sur du 80-90 grammes pour l'intérieur. Et quand il y a une couverture, parce qu'il n'y a pas toujours une couverture, c'est souvent des fois le même papier, je peux tirer 110, 120, 130, 140. Mais voilà, je suis quand même assez limité. Bon, je ne sais plus pourquoi je dis ça. C'est comme quand je voyage à pied, je me perds. Voilà, je me suis un petit peu perdu. Voilà. Donc oui, donc les papiers sont choisis au toucher ou je cherche. Si quelqu'un a des vieux papiers, alors bien sûr, au moins en A4, une ramette me suffit. Mais des vieux papiers anciens, un peu jaunis, un peu d'une certaine couleur, je suis preneur hein, pour du moment où ils sont propres que je peux imprimer. Parce que je cherche toujours des papiers originaux pour créer une nouvelle ficelle. Un dernier point, oui. Il y a un livre dont on n'a pas parlé, dont je suis assez content, qui est un très grand livre, au niveau de la taille déjà pour commencer, dans une collection qui s'appelle « L'aventure humaine ». Sur lequel j'ai travaillé 6 mois, qui fait 300 pages, un format qui fait quasiment A4, d'un couple qui, et ça, ça peut intéresser beaucoup de gens dans la région, d'un couple qui a, de 1984 à 2004, pendant 20 ans, parcouru à pied avec leur sac à dos la forêt pluviale de l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. Et c'est le journal... du mari qui est décédé, mais la femme voulait vraiment publier son journal. Et c'est en fait un plaidoyer pour la forêt, pour protéger la forêt, notamment la forêt canadienne. C'est un livre qui est disponible à Mosaïque ou aux éditions. Bien sûr, qui est beaucoup plus cher qu'une ficelle, puisqu'il coûte 39 euros. Mais c'est un travail de 20 ans d'écriture. Et puis là, c'est imprimé sur du très, très beau papier, avec non pas un livre broché, mais un livre relié. Avec couverture en carton et tout. Voilà. Alors ça, c'est un peu l'exception. Je ne peux pas faire une exception comme ça en permanence parce que c'est un lourd travail, mais je suis assez content du rendu et je suis assez content que finalement, cette collection que j'ai appelée L'Aventure humaine soit signée par les éditions de Pas de l'Homme.
Philippe Lémonnier, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps sur RDWA pour nous parler de cette maison d'édition, le Pas de l'Homme, qui est à Die.
Absolument, oui, Adi.
Bonne soirée.
Bonsoir et merci beaucoup.
Au revoir.